là, je vais tout de suite rectifier avant de me faire disputer par mon chef, et ce serait légitime, en fait. Je suis responsable du service éducatif au sein du département de l'action culturelle et éducative, qui est une nuance quand même importante, puisque effectivement, c'est Pierre Fournier, qui est conservateur aux Archives nationales, qui définit l'ensemble de la politique culturelle, après à charge pour les enseignants détachés, puisque c'est effectivement mon rôle au sein des archives, de faire des propositions d'activités pédagogiques. Donc, pourquoi j'ai retourné ce matin ? C'est vrai que parmi les à peu près la quarantaine d'activités pédagogiques qui est proposée par les Archives nationales, j'aurais pu faire effectivement d'autres choix. Bon, il se trouve que par rapport effectivement au déroulé de ces journées, c'est un sujet déjà qui profite énormément actuellement du développement d'histoire des arts à l'école primaire et dans le secondaire. Donc c'était un sujet assez porteur. Les ateliers que nous avons développés autour de cette thématique des chartes ornées permet également un travail pluridisciplinaire qui intéresse non seulement bien sûr l'histoire, les arts plastiques, l'histoire des arts, mais également, comme on le verra, les sciences, hein, puisque nous avons pu travailler avec des enseignants également de chimie et sciences physiques. Et puis enfin, c'est un sujet qui s'inscrit également actuellement dans un nouveau champ de recherche. Autant effectivement le travail sur les manuscrits enluminés est ancien. Là, on est dans un champ de recherche qui est relativement nouveau, qui est porté aux Archives nationales par un autre conservateur des archives, qui est Guylain Brunel. Et d'ailleurs, pour la partie véritablement scientifique, je vous renverrai à son ouvrage qui est apparu en 2005, à l'occasion donc d'une exposition sur les chartes ornées et dont il était commissaire. Voilà. Donc, le propos est d'abord, dans un premier temps, en guise de préambule, d'abord parce que c'est aussi un des objectifs de ce séminaire, à savoir l'analyse des ressources institutionnelles. Je me propose d'abord de vous présenter un peu l'offre pédagogique des Archives nationales, pas pour vous vendre mes ateliers, mais simplement déjà pour vous expliquer effectivement comment nous fonctionnons. Après, dans un second temps, je vais en fait comment se fait le passage en fait entre le discours scientifique et puis nous après l'appropriation pédagogique que l'on peut en faire, puisqu'on est quand même effectivement dans un champ scientifique avec un vocabulaire qui est spécifique et puis les problématiques qui sont quand même assez pointues. Et puis enfin une dernière partie, ça sera en fait vous montrer ces propositions pédagogiques autour d'un atelier donc qui s'appelle Charte endiablée, hein, qui est proposé aux Archives nationales depuis 2007, puisque si l'exposition n'a duré bien sûr que 3 mois, nous avons poursuivi les activités et nous continuons encore à les adapter aujourd'hui. Voilà, donc déjà une première chose sur l'offre pédagogique des Archives nationales. Donc je vous disais, nous avons à peu près 35 ateliers que nous proposons aux scolaires, ceci depuis les années 50. Puisque la mission du service éducatif des archives a été définie par Charles Brébant, qui était alors directeur des archives de France, et je le cite, le service éducatif a pour objet de mettre les élèves des différents ordres d'enseignement en contact direct avec les documents d'histoire, au moyen de visites commentées du musée de l'histoire de France, son personnel, placé sous la direction d'un archiviste aux Archives nationales, et composé uniquement de membres de l'enseignement mis à ma disposition. Donc ça a été effectivement le statut des enseignants placés donc à disposition du directeur des archives de France, puisque je parle moi au nom des archives nationales, mais il faut savoir effectivement que les archives nationales s'inscrivent dans un réseau avec des archives départementales, des archives municipales, et que le service éducatif, qui a été en fait le premier service éducatif de ce type créé dans le réseau archives de France, a été suivi très rapidement en fait par d'autres créations de services éducatifs au sein des départements. Alors c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'effectivement, les Archives nationales, le site est à Paris, il est quand même effectivement assez éloigné également. En revanche, dans l'ensemble des départements, il y a des services éducatifs qui accueillent des scolaires, avec des activités qui sont similaires parfois aux nôtres. Les choses ont quelque peu changé avec récemment en fait l'abandon par le ministère de l'Éducation nationale en fait des postes mis à disposition, ce qui a mis en danger un certain nombre de services éducatifs, déjà parce que beaucoup de services éducatifs ont perdu l'enseignant mis à disposition ou les quelques heures dont disposait le service d'archives d'un enseignant, effectivement, placé au sein des archives. Bon, nous avons la chance, aux Archives nationales, d'avoir en fait pu bénéficier, mon collègue et moi-même, Christophe Barret, de détachement. Donc nous sommes effectivement détachés à plein temps depuis 2009 auprès des Archives nationales, ce qui nous permet aussi d'avoir des politiques sur la longue durée, ce qui n'était pas toujours le cas précédemment, puisqu'effectivement les mises à disposition sont généralement faites pour 2 années, renouvelables une fois. Et ça se voit d'ailleurs dans l'historique du service éducatif, quand on veut effectivement revoir un petit peu comment, quels sont les axes qui ont été donnés depuis sa création. En fait, on manque quelque peu d'archives, c'est assez paradoxal aux archives, mais les archives du service éducatif sont assez fragmentaires, tout simplement parce qu'un professeur mis à disposition à mi-temps se transforme très rapidement son temps en deux pleins temps, un dans son établissement et puis l'autre aux archives, tellement il y a de choses à faire. Donc finalement, on travaille toujours entre les archives et chez soi. Donc ça, pour vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons la chance donc d'être deux profs détachés, de bénéficier également de l'aide et du soutien donc de trois animatrices conférencières. Et puis nous allons avoir enfin à nouveau un secrétaire. Donc vous voyez, c'est un petit service qui au total en fait compte 6 personnes et demie, puisque nous avons une de nos conférencières qui est simplement à mi-temps. Donc c'est un petit service, mais qui accueille quand même à peu près 14 000 scolaires par an. Donc sur des projets assez diversifiés qui permettent donc de faire connaître à la fois les archives nationales au public scolaire, mais également de les mettre en contact avec des documents donc historiques pour l'ensemble des périodes, puisque le document le plus ancien conservé aux archives nationales est un document sur papyrus qui date de 625, donc on touche à l'époque mérovingienne, hein, jusqu'aux documents bien sûr les plus récents, puisque vous savez que la collecte continue et se poursuit à un rythme assez soutenu aux archives. Donc en fait, de cette circulaire, il y a quelques principes de fonctionnement qui en découlent. Déjà, d'une part, c'est une démarche, toute notre démarche est fondée sur la découverte de documents originaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire venir des scolaires dans un service d'archives, si c'est pour leur montrer effectivement, ou des facsimilés, ou les faire simplement, exclusivement travailler sur des images numérisées, même si elles sont très belles. Donc ça, c'est aussi ce qui explique la raison d'activités développées en présentiel, c'est-à-dire qu'on incite effectivement les enseignants à venir, dans la mesure du possible, visiter le site et prendre contact directement avec nous. C'est une démarche également qui s'inscrit strictement dans les programmes de l'éducation nationale. Un des succès du service éducatif est effectivement de proposer des activités qui s'inscrivent, qui s'ancrent dans les programmes scolaires. Il n'est pas question, pour le coup, de faire de l'animation. On est véritablement dans des actes d'enseignement. Ça, c'est quelque chose également qu'on tient énormément à souligner. Et puis enfin, nous cherchons également en fait, à promouvoir l'accès au patrimoine. Alors, patrimoine écrit, bien sûr, parce que ce sont les archives. Mais pour ceux d'entre vous qui connaissent les archives nationales, nous avons la chance en fait, d'être implantés sur l'hôtel de Soubise, donc un hôtel de début XVIIIe siècle, avec des décors de style rocaille, qui s'ancre également sur un hôtel plus ancien, qui est l'hôtel de Clisson, dont on a conservé les tours fortifiées de l'hôtel médiéval de la fin du XIVe, donc un patrimoine historique quand même assez incroyable, qui nous permet là aussi en fait, de développer d'autres activités en lien avec les lieux. Donc un accès donc, au patrimoine, mais vraiment pour le plus vaste public possible, c'est-à-dire que nous avons une devise hein, qui est d'accueillir les jeunes gens, enfin le public jeune, de la maternelle à l'université, c'est-à-dire à la fois proposer des ateliers hein, pour les plus jeunes, comme des ateliers contes, par exemple, pour des élèves de maternelle, voire des ateliers héraldiques, puisque on peut effectivement accueillir des tout-petits de moyenne ou de grande section pour constituer des blasons, avec des règles simples, hein, l'unicité du blason, les règles de superposition des couleurs, l'apprentissage également d'un vocabulaire spécifique, avec ce langage des couleurs qui est quand même très très poétique et auquel les enfants, même les plus jeunes, adhèrent très rapidement. Et puis bien sûr, jusqu'à l'université, parce que nous avons de plus en plus de demandes, du fait déjà de la masterisation. On sait très bien que, contrairement aux générations passées, hein, d'enseignants d'histoire, qui avaient souvent en fait, fait un diplôme par exemple de maîtrise, bien aujourd'hui, en fait, du fait de la masterisation, nous allons avoir des enseignants en histoire qui parfois n'auront jamais travaillé sur des documents originaux. Donc beaucoup d'enseignants du supérieur aujourd'hui prennent contact avec nous à partir de la licence pour qu'effectivement leurs étudiants prennent conscience de ce que sont les archives. Voilà pour ces quelques principes de fonctionnement. Pour les mettre en place, donc, quelles modalités ? D'abord, ce sont donc la mise en place d'ateliers pédagogiques. Alors, ces ateliers pédagogiques ont à peu près une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'au moment de la création du service éducatif des archives, c'était essentiellement en fait des visites du musée d'histoire de France, hein, qui avait d'ailleurs été remanié dans les années 50 avec une exposition consacrée au sceau et qui permettait effectivement de mettre en contact les élèves avec les originaux, mais simplement dans le contexte en fait, de visites qui avaient quand même un caractère un peu magistral. dans les années, à la fin des années 80, les premiers ateliers ont commencé à apparaître. Alors, dans le même temps, hein, vous voyez exactement la même démarche dans les archives départementales. Donc, ce sont souvent des ateliers sceaux, hein, sigillographie, ateliers écrire au Moyen-Âge, ateliers héraldiques, que l'on retrouve dans d'autres services d'archives départementales. À partir de ces ateliers qui sont effectivement essentiellement ciblés sur le Moyen-Âge, en fait, l'offre ne va pas cesser depuis de se diversifier, hein, donc jusqu'aux périodes les plus récentes. Une autre des demandes qui nous est faite est d'accompagner l'ensemble des activités culturelles des archives nationales. Donc nous sommes présents, bien entendu, lors des grandes manifestations, type Journée européenne du patrimoine, Nuit des musées, autrefois Lire en fête, avec à chaque fois des propositions d'ateliers qui sont souvent en même temps des moyens pour nous d'expérimentation. C'est-à-dire que nous avons un public jeune qui vient nous voir dans le cadre familial, et c'est le moment parfois, effectivement, de proposer les activités pour voir comment déjà ça prend auprès des enfants, sachant ensuite que ça peut s'inscrire, avec bien entendu une démarche qui sera une démarche cette fois-ci pédagogique, assimilable à un acte d'enseignement, comment après ça pourra prendre place parmi les collections des ateliers pédagogiques. Et puis bien sûr, c'est aussi l'accompagnement pédagogique de toutes les expositions temporaires des archives nationales. Il y en a à peu près, nous en avons un rythme de 2 grandes expositions par an. Donc actuellement, il y a une exposition consacrée au fichage du Second Empire jusqu'aux années 60, pour lequel nous avons un accompagnement spécifique également. Nous attendons une exposition consacrée donc au minutier central des notaires parisiens pour le printemps prochain, et en fait systématiquement un accompagnement donc pédagogique est fait avec des rencontres académiques pour effectivement sensibiliser également les enseignants à l'offre pédagogique qui est faite et puis au caractère scientifique de ces expositions. Peut-être également quelques mots sur les déroulés types en fait d'un atelier. Vous remarquez hein, sur la photographie complètement à gauche que nous sommes très très sensibles en fait au fait que les élèves se sentent attendus. Donc systématiquement, ils ont à leur disposition un visuel qu'ils vont donc pouvoir enseigner au fur et à mesure de la séance, du matériel. Et puis, en fait, il y a systématiquement 3 temps dans les ateliers. Un premier temps qui est la découverte du site avec la découverte également de la fonction des archives. Puis ensuite, nous montons donc dans les salles d'atelier. On va leur proposer en fait d'abord d'aborder le sujet. Donc là, c'est un atelier sigillographie en abordant tout ce qui est notion, concept, avant en fait de leur proposer dans un second temps une réappropriation des savoirs avec la production en fait d'un objet technique ou artistique. Donc ça, c'est assez systématique dans nos ateliers. Alors bien sûr, quand on touche les élèves du lycée, la restitution peut être également en fait une présentation en séance plénière à l'oral. Elle ne prendra pas forcément le caractère plus ludique que l'on peut voir avec des jeunes gens effectivement qui confectionnent leur propre blason ou qui font leur saut, comme on peut le voir sur ces quelques images. Donc voilà pour la présentation déjà de cette offre pédagogique. Juste avant quand même de passer au propos suivant, il faut savoir également que je parlais de la collecte des archives, donc qui ne cesse effectivement de croître. Vous savez peut-être que le site des archives de Paris en fait est totalement donc saturé, donc il a fallu commander en fait un nouveau centre des archives. Ça a été chose faite avec une décision présidentielle prise en 2004 et l'ouverture programmée d'un nouveau site des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, donc dans le département de la Seine-Saint-Denis, site qui va ouvrir donc au public à la rentrée de janvier 2013. Alors c'est pour nous un enjeu qui est également important puisque il va nous falloir nous redéployer non seulement sur le site parisien mais également sur ce site de Pierrefitte, avec l'idée en fait de proposer les ateliers en correspondance avec les fonds conservés. C'est-à-dire que nous ne quittons pas le site parisien où vont être conservés encore les documents jusqu'à 1789. Et nous allons devoir déployer une activité à Pierrefitte où les documents postérieurs à 1790 vont être transportés. Et puis vous savez peut-être qu'il y a un troisième site francilien qui est celui de Fontainebleau où actuellement sont conservés des documents donc postérieurs à 1958 En fait, on va confier à ce bâtiment de Fontainebleau, à ce site de Fontainebleau, en fait, une vocation thématique avec, par exemple, les sources normalement audiovisuelles et sonores qui devraient être conservées là, ce qui veut dire aussi pour nous d'autres enjeux pédagogiques. Utiliser effectivement ce type de sources qui sont spécifiques et voir quels accompagnements pédagogiques nous allons pouvoir créer autour de ces documents. Voilà, donc un redéploiement en fait de nos activités. Et puis en même temps, c'est aussi un autre enjeu qui est de répondre à notre vocation de SCN, c'est-à-dire service à compétence nationale. C'est-à-dire bien entendu, on reçoit énormément d'élèves parisiens, beaucoup d'élèves franciliens, et encore trop peu effectivement d'élèves qui viennent d'autres régions. Bien entendu, il y a le problème des transports qui se pose. Et là, c'est une des raisons qui nous a poussé en fait et qui nous pousse pour l'ouverture de Pierrefitte à envisager en fait aussi les potentialités que peuvent offrir en fait l'informatique et en particulier la mise en place de plateformes collaboratives avec la possibilité en fait de travailler à distance. Nous avons les documents, les classes effectivement dans les établissements peuvent bénéficier de ça l'informatique où à ce moment-là il est possible éventuellement de travailler à distance. Alors bien sûr on n'a plus ce même rapport à l'original, mais ça permet aussi de découvrir quand même des fonds qui sont parfois tout à fait exceptionnels et méconnus des enseignants. C'est vrai qu'à chaque fois que nous mettons à disposition des enseignants des documents d'archives, ça permet aussi de renouveler l'offre qui est faite dans le manuel scolaire. À chaque fois, finalement, quand on regarde un peu les éditeurs, on s'aperçoit qu'on a toujours un petit peu les mêmes images qui reviennent. Or, nous avons des fonds d'une richesse incroyable et aux archives nationales et aux archives départementales. Et c'est vrai qu'il faut savoir quand même que tous les personnels enseignants sont toujours très, très bien accueillis dans les archives et en particulier par les services éducatifs. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Il y a énormément de très beaux projets à mettre en place. Bien, deuxième partie, donc... sur ces chartes ornées. D'abord, peut-être commencer par une définition, parce que tout à l'heure, j'entendais parler effectivement des marges. Donc, il y a un lien, d'abord, parce que c'est au XIIIe siècle à peu près que se développent également ces chartes ornées. Donc, en fait, une définition simple, tout simplement, on identifie par charte ornée les chartes sur lesquelles se déploient des initiales décorées à l'encre. Donc, ce qui nous permet effectivement d'apporter quand même des distinctions par rapport au terme de miniature, au terme de lettres historiées. Là, en fait, on est simplement dans des procédés à l'encre, même si, à l'extrême fin du XIVe siècle, on s'aperçoit que certaines des initiales vont porter effectivement et de la peinture et de la couleur. Mais à chaque fois, on n'aura jamais, dans ces exemples plus tardifs, des registres iconographiques aussi variés que ceux que nous avons, qui sont faits à l'encre. On en voit un exemple, un des premiers exemples, qui date de 1284. C'est une charte de Philippe le Hardi, avec tout un développement iconographique. Et on voit effectivement la variété. On en reparlera un petit peu plus loin également des motifs, avec à la fois des motifs animaliers, végétaux, des grotesques. Le tout, en fait, aménagé, qui trouve sa place, en fait, au sein véritablement de l'initiale. C'est-à-dire qu'en fait, le principe est que l'initiale propose un certain nombre d'espaces, aussi bien au centre de l'initiale qu'aux alentours, pour ce déploiement de décors. Voilà, donc c'est un champ, comme je vous le disais, de recherche assez récent. Les premières publications, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un colloque à Lyon qui s'est tenu, où une des premières communications a été faite au début des années 2000 sur la question. Et puis, bien sûr, depuis, les travaux continuent, entre autres, donc, au sein des archives nationales. Et pour l'instant, pour les archives, un corpus de 210 items a été identifié. Alors, 210 items par rapport à d'autres sources. Si on compare avec effectivement les richesses des manuscrits enluminés de l'ensemble des fonds des bibliothèques, ça paraît effectivement assez restreint, un champ assez restreint, mais il n'empêche que c'est quand même un champ très riche et puis surtout qui offre des possibilités très intéressantes également avec des scolaires, parce que relativement aisé aussi à mettre en place. Donc pour une fourchette, comme je vous les notez, de la fin du XIIIe siècle à la fin donc du XVe siècle. Alors, pour la plupart, on trouve en fait une majorité d'actes royaux qui sont pour une grande partie, conservés dans le trésor des chartes. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis cette image au centre des grands dépôts, hein, donc des dépôts qui ont été construits au XIXe siècle. Vous savez sans doute que le choix de l'hôtel de Soubise a été fait par Napoléon Ier en 1808, mais la construction donc, des dépôts se fait en deux phases, une sous Louis-Philippe et puis celle que l'on aperçoit ici donc à l'époque de Napoléon III. Et en fait, au centre des grands dépôts, nous avons le double ventail là, de bois que l'on aperçoit sur la droite, qui dissimule donc l'armoire de fer, et en fait, au cœur du dépôt, a été déposé donc le trésor des chartes où était conservé. Il faut se rappeler que ce trésor des chartes, autrefois, il est dans la sacristie donc, de la Sainte-Chapelle. Il conserve tous les coffres avec les documents qui émanent donc, de la chancellerie royale et sous la protection, la haute protection des reliques qui sont conservées à proximité. Donc il y a quand même tout un caractère très emblématique dont a hérité également, dont on a hérité aux archives avec cette disposition au cœur du dépôt hein, du trésor des chartes qui est donc aujourd'hui coté, c'est la fameuse cote J aux archives nationales. Donc la plupart donc des chartes ornées sont conservées en fait à peu près pour 70% d'entre elles dans le trésor des chartes. Alors une telle effectivement un tel fond d'une telle richesse avec une grande variété en fait motivait les conservateurs responsables de ces fonds et en particulier je vous disais tout à l'heure donc Guylain Brunel pour proposer donc une exposition. Ça a été chose faite donc au printemps 2007 avec l'exposition donc Trésor des chartes des rois de France, la lettre et l'image de Saint-Louis donc à Charles V avec une présentation dans les salles du musée donc des Archives nationales puisque c'est le nom que porte désormais le musée de l'histoire de France au sein des archives depuis 2007 donc sur deux étages hein, la possibilité pour le visiteur donc de découvrir des documents donc qui proviennent du trésor des chartes avec comme vous pouvez le remarquer en fait l'association de la statuaire contemporaine et puis donc des chartes exposées certaines pour la première fois aux yeux du public. Alors le document médiéval, quand on l'expose, il est quand même d'un abord assez difficile, parce que, par définition, une charte, donc c'est la lettre royale par excellence, hein, donc rédigée en latin, comme vous pouvez le voir également, sur parchemin, généralement scellée de cire verte sur la de soie. Donc il y a tout un commentaire qu'il est aisé de faire avec des élèves. Après, effectivement, quand on entre dans le document, on se heurte au problème de la langue, le latin. On se heurte également au problème de la paléographie avec des élèves. Donc on va voir, nous, comment on a cherché effectivement à détourner ces problèmes. Et on a un certain nombre donc de solutions que l'on a pu apporter. Alors il était déjà très intéressant de travailler sur cette exposition dans la mesure où déjà l'ornementation est extrêmement variée. C'est-à-dire que les motifs les plus anciens associent en fait la lettre initiale hein, au moment des derniers Capétiens avec soit des portraits humains, soit des petits personnages hybrides, hein, les grotesques, beaucoup de représentations animales et végétales, avant en fait d'introduire de nouveaux motifs. Donc on s'aperçoit effectivement au tout début du XIVe siècle la fleur de lys, donc emblème de la royauté également, qui apparaît en 1304. Quelques années plus tard, c'est la couronne, pour arriver finalement à des compositions comme celles que nous avons au centre, où on a à la fois l'association du portrait et de la fleur de lys, avec un déploiement effectivement d'un motif végétal, toujours donc fait à l'encre. Hein. Vous voyez, c'est quand même extrêmement sobre comme présentation. Une des raisons de cette sobriété est également, comme en fait c'est la parole du roi aussi qui s'exprime dans ses chartes, il n'est pas question finalement que l'image prenne le pas sur le contenu du texte. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, l'ensemble de ces chartes ornées sont généralement restées, finalement, très réservées au niveau des initiales. Mais on a quand même des scènes extrêmement structurées, hein, comme la dernière que vous avez sur la droite, qui associe alors, non seulement, effectivement, le portrait hein, du roi, qui se tient donc à droite hein, de l'initiale, avec donc toute... un déploiement là de motifs végétaux et puis l'introduction également de nouveaux emblèmes qui là aussi véhiculent l'image du pouvoir du roi avec des lions, des dauphins, des dragons hein, qui viennent enrichir en fait les registres iconographiques. Donc là c'est vrai que quand nous avons découvert l'ensemble de ces chartes ça nous ouvrait énormément de champs d'investigation avec des élèves. comment concevoir une activité à partir des scolaires? Ben, le premier travail, il a fallu effectivement commencer par étudier donc le corpus. Et puis, c'est tout le travail, c'est tout l'intérêt en fait que nous, aussi de travailler en amont avant que l'exposition arrive, donc avec les conservateurs, pour qu'ils puissent effectivement nous mettre à disposition le corpus qu'ils ont à disposition. Nous n'intervenons pas, bien sûr, sur le choix des documents qui vont être exposés, mais le fait d'être prévenu en amont va nous permettre effectivement déjà de faire une sélection. Et là, nous avons une nouvelle avancée récente qui nous fait très très plaisir, c'est d'être associé également au débat au moment de la mise en place de la scénographie. C'est-à-dire tout simplement expliquer que bah, dans l'exposition Chartornet, par exemple, les cimes qui étaient légèrement inclinées eh bien, facilitaient le travail avec un groupe d'élèves. Alors que quand nous avons au contraire un bandeau horizontal avec des chartes posées côte à côte, en fait vous connaissez le souci, une classe même si on la divise en deux, c'est quand même au moins 15 élèves, vous en avez trois au-dessus de vous, deux autres un peu plus grands qui regardent par-dessus votre épaule, trois qui sont à l'envers, donc pour la lecture du document ce n'est pas chose aisée, et puis après il nous en reste encore 9 d'élèves, c'est ça, si j'ai bien fait mon compte, qui eux sont en train de s'échapper et déjà qui n'écoutent plus, et en fait on perd une partie de notre public. Donc c'est vrai que l'avantage de ces inclinée va permettre de réunir un groupe plus large et puis en fait aussi de capter davantage leur attention. Donc ça c'était très intéressant d'avoir ces échanges avec les scénographes. Important également bien sûr l'échange avec les archivistes et les historiens, aurais-je dû ajouter ici, puisque on le sait, hein, le choix d'un beau document pour un historien ne sera pas forcément le même que celui de l'archiviste et encore moins celui du pédagogue. C'est-à-dire que c'est vrai que régulièrement on nous propose des documents qui sont amusants, parce que donc pour les scolaires, et on sait très très bien en fait que le document amusant, ben, on n'en fera pas grand chose en tant que pédagogue. C'est bien de s'amuser, mais on a quand même effectivement un travail derrière qui est, comme je disais tout à l'heure, un acte d'enseignement. Et il ne s'agit pas simplement de faire de l'animation, ni de faire plaisir, mais aussi effectivement de faire passer un certain nombre de notions. Alors ces notions, bah, c'est tout le lien effectivement avec les programmes. Alors c'est relativement chose aisée, parce qu'on a une formation de prof d'histoire, mon collègue et moi-même, pour effectivement découvrir les programmes d'histoire ou d'histoire des arts. Nous sommes attentifs au programme de nos collègues de lettres, éventuellement d'art plastique, d'autant que nous travaillons effectivement avec quelques collègues de ces disciplines qui nous donnent en fait leur expertise. C'est beaucoup plus difficile quand on aborde les programmes de sciences. Je ne sais pas si parmi vous, certains se sont amusés à voir les consignes dans les disciplines, par exemple, de chimie, physique. On a du mal parfois à y trouver notre compte. Heureusement, là encore, nous avons des enseignants et des collègues de bonne volonté qui nous prêtent leur concours et qui nous ont permis de mettre en place un certain nombre d'activités dont on va parler juste après. Et puis, bien sûr, en fait, le but aussi, c'est donc, parce que j'ai bien dit qu'on était dans un acte d'enseignement, pas dans une démarche d'animation, en fait, véritablement, en fait, mettre en place une vulgarisation des savoirs scientifiques. C'est-à-dire arriver effectivement à travailler sur un vocabulaire spécifique, sur l'étude de notions à mettre à portée. Alors ça pose tout le problème effectivement de l'adaptation et des libertés que l'on va pouvoir effectivement se permettre, parce que quand on accueille un public aussi diversifié, des classes qui sont parfois très hétérogènes, avec des niveaux de langage aussi très différents, il faut effectivement s'adapter. Donc on est obligé de prendre un certain nombre effectivement parfois de libertés, mais en même temps en étant toujours très très soucieux qu'à la fois en termes de transmission de ces savoirs, être le plus exact possible. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être simple tout en restant extrêmement rigoureux. Donc ça, c'est vraiment aux archives la politique que nous cherchons à mettre en place. Alors c'est vrai également donc pour l'histoire des techniques et que nous avons mis en application en particulier dans le cadre de ces ateliers. Alors ce qui va me permettre justement de vous présenter notre atelier Charte en Diablé des Archives nationales. Avec en fait, non pas véritablement, je triche un peu, parce que quand je dis un atelier Charte en Diablé, derrière en fait se cache une combinaison d'ateliers, une déclinaison d'ateliers qu'il est possible effectivement de moduler en fonction des demandes des enseignants. La première, c'était évidemment mettre en place un atelier lettrine médiévale. L'avantage, c'est que les supports étaient simples. On pouvait travailler. Si on n'a pas beaucoup de budget, on peut travailler sur du canson, on peut travailler de l'encre de Chine ou du brun noir. Si on veut aller plus loin, on peut aussi travailler sur du parchemin végétal, voire du parchemin véritable, ce que nous avons fait. Nous pouvons aussi utiliser de l'encre de Chine, du brunois, mais aussi en fait fabriquer des encres. Et c'est là où le professeur de physique, chimie a son importance. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, il y a quand même des mises en couleur de ces lettrines, de ces chartes ornées. Ça nous a permis également de mettre en place un atelier en enluminure. On verra qu'il y a quand même un certain nombre, que les réalisations techniques au sein de la chancellerie nous a permis justement d'avoir, en termes de rigueur par rapport en fait à l'histoire des techniques, d'être véritablement en conformité avec ce qui se passait réellement. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'entrevoir l'enluminure. C'est ce qui se passe dans le scriptorium de l'abbaye, avec effectivement un travail par couches successives, hein, des teintes les plus claires jusqu'aux plus foncées, et qui demande un travail de très longue haleine qui va s'étendre sur plusieurs jours, donc quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des élèves. Et puis il y a ce qui se passe en fait dans les bureaux de la chancellerie, où on travaille en aplat de couleurs. Et donc du coup il s'agit simplement en fait de travailler avec des liants, des pigments, etc. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Et puis, bien sûr, on peut combiner l'ensemble de ces ateliers, c'est-à-dire proposer un atelier lettrine. On travaille généralement en fait avec les lettres initiales des enfants, ce qui leur permet aussi de s'approprier le modèle. Combiné avec un atelier de calligraphie, puisque vous avez vu que ces documents ne présentent pas simplement, bien sûr, une lettre ornée. Derrière, il y a un texte. On peut également donc sceller ce document. Donc, bien entendu, là, ce n'est pas un atelier en 2 heures, en une matinée ou une après-midi. On propose aux enseignants de rester la journée avec nous. Et puis, également, puisque je vous disais qu'un autre souci était en fait l'approche du texte, avec le problème de la langue, et puis de la paléographie, on a mis en place un atelier qui s'appelle donc Verba Volant Scripta Manent, et qui est destiné aux élèves latinistes. Donc, le but est de leur d'abord donner les clés pour la transcription de texte. Donc il n'est pas question, j'en parlais maintenant parce que je n'ai pas davantage déployé en fait l'activité. Le but en fait est de leur mettre entre les mains un texte qui est quand même relativement aisé à lire, parce qu'on va travailler finalement sur une très courte durée avec eux. Généralement, on leur propose de venir pendant 2 séances. Une première séance où on découvre déjà le document médiéval, en les initiant en fait à tout le système d'abréviation. Les fameuses, vous savez, notes tyroniennes qui peuvent parfois sembler redoutables, mais en fait, on a certains documents qui les traduisent de façon extrêmement simple. Un tilde horizontal remplace un M et un N. Et en fait, on leur donne des clés de lecture. Un petit code secret, donc déjà comme c'est un petit code et en plus qu'il est secret, ça permet effectivement d'attiser leur curiosité. Et puis on va commencer en fait déjà par faire un premier travail de transcription. C'est une très bonne façon finalement de faire entrer des élèves dans une séquence. On travaille en fait pas sur des documents déjà transcrits, hein. On leur propose de faire la transcription. Donc au début en fait ça fonctionne toujours de la même façon, un petit peu comme dans n'importe quel cours de paléographie. Il y en a qui sont très doués et qui tout de suite vont trouver les premières lettres, le premier mot, la première phrase. Et puis le voisin qui va dire « Mais comment fais-tu pour y arriver ?» Et du coup, il se prête au jeu également. Et au bout d'un moment, en fait, en une demi-heure de temps, on a une classe qui est en train de travailler et qui cherche à transcrire un document. Alors pour des élèves non latinistes, on le fait bien sûr avec des documents en français. On en dispose quand même pour la fin du XIIIe siècle, qui sont relativement bien écrits et qui sont dans un français qui est assez éloigné du nôtre, mais qui permet aussi d'avoir toute une approche au niveau justement d'évolution de la langue. Et puis avec les élèves latinistes, une fois qu'ils ont fait leur transcription, alors je vous rassure, on ne les torture pas quand même, sur certains documents sont quand même très 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 longs. Donc une fois effectivement qu'ils ont bien compris le système, on estime que le travail de transcription, et ça y est, ils sont entrés dans la séance, et bien on va passer en fait à la traduction. Donc là on fait ça généralement avec l'aide bien sûr du professeur de latin. Et puis ça va être assez intéressant parce qu'on va s'apercevoir finalement qu'il y a un certain nombre de mots qui nous viennent directement du latin classique, et puis il y a un certain nombre de termes que l'on ne trouvera jamais dans un gaffio classique, et en fait on va pouvoir travailler également sur les origines de ces mots et leur montrer que en dehors du latin qu'ils étudient en classe, qui est le latin donc classique, eh bien en fait il y a une pérennité de cette langue, qu'elle évolue aussi. Donc c'est un atelier qui fonctionne assez bien, et on termine, c'est l'atelier que vous voyez là, hein, en fait avec à leur tour en fait on leur propose de faire de rédiger en fait un acte en latin. Donc là on passe, on a travaillé sur de la version, désormais on fait donc du thème, et on leur propose en fait de faire à leur tour un acte écrit en latin avec donc les mots clés qu'ils viennent d'apprendre, et puis sous deux formes, soit effectivement un acte de la chancellerie pontificale, donc on scellera à ce moment là avec quelque chose qui s'apparente davantage à une bulle de plomb, ou alors effectivement un l'almanach de la chancellerie royale française, on scellera de cire verte, hein, comme les documents en fait, qu'ils auront pu observer. Voilà. Donc je reviens sinon sur la déclinaison des ateliers pédagogiques qui tournent vraiment autour de l'exposition à Chartournay et des chartes donc, qui sont conservées aux archives nationales. Donc là, en fait, hein, une séquence un peu type de cet atelier. Comme je vous le disais tout à l'heure, les élèves disposent systématiquement donc, d'un visuel pédagogique qu'ils vont renseigner au fur et à mesure de la séance. Et puis là, on est déjà passé en fait à la deuxième phase de l'atelier. On propose effectivement aux élèves de travailler sur leur propre lettrine. Donc là, pour un élève qui s'appelle Jules, qui a dessiné déjà son grand J. Donc pour cela, on leur met à disposition en fait du parchemin végétal, voire dans certains projets, par exemple dans le cadre d'itinéraires de découverte, on va travailler directement donc sur du parchemin naturel, du parchemin véritable. Mais la plupart du temps, effectivement, pour l'atelier, c'est du parchemin végétal. On leur met à leur disposition donc des lettres qu'ils vont en fait décalquer. Hein, vous remarquez que le corps de la lettre va être la peint en bleu, donc c'est déjà une interprétation de la lettrine, un petit peu comme les lettrines que l'on va trouver par exemple dans le grand livre blanc de Saint-Denis, hein, qui date du XIIIe siècle, où on a en fait les deux couleurs, bleu, hein, c'est en fait du lapis-lazuli, et puis le rouge qui figure le minium. Bien entendu, nous on travaille là simplement avec des gouaches, hein, donc c'est un atelier qui est relativement simple à mettre en place. Et les élèves, en fait, ont toutes ces feuilles blanches que vous voyez avec les motifs à leur disposition, donc des motifs qui sont extraits des chartes. Vous retrouvez le petit sanglier, hein, d'ailleurs, de Philippe III le Hardi, qui a d'ailleurs servi de modèle à l'élève qui est dans le registre inférieur là, de l'image. Alors, on travaille, là, pour le coup, en fait, donc avec des gouaches, des pinceaux, des plumes sergent-major. Donc là, on est totalement dans l'anachronisme le plus parfait. Mais bien entendu, il n'est pas question de leur mettre des plumes sergent-major dans les mains sans leur expliquer avec quoi, effectivement, on travaillait. Donc on a quelques ateliers également, pareil, dans le cadre d'IDD, où on a mis entre les mains d'élèves des véritables plumes d'oie. Il faut avoir des nerfs d'acier, parce que 20 élèves qui travaillent à la plume d'oie... D'abord, il faut aussi accepter l'idée que les plumes d'oie ne serviront pas beaucoup après, parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même assez difficile. C'est relativement aisé de s'approprier la plume métal, c'est beaucoup plus difficile donc de travailler à la plume d'oie. Très souvent, d'ailleurs, dans les ateliers en fait calligraphie, comme il n'est pas question là systématiquement d'utiliser ce type de plume, ça nous gênait quand même de les faire travailler aussi à la plume d'oie. On a remplacé par le calame. Alors l'avantage du calame, c'est que c'est beaucoup plus solide. C'est quand même utilisé jusqu'à la Renaissance, donc pour le coup, on est quand même sur le plan d'authenticité relativement proche quand même de la réalité. Voilà, donc là, ça permet en fait à des élèves qui sont parfois aussi un peu en rupture avec l'écrit, en fait, de renouer avec l'écrit, mais d'une façon qui est assez valorisante, puisque celui qui sait tenir une plume et un pinceau va pouvoir en fait avoir une production qui va valoriser son travail également. Alors bien sûr, on peut pousser beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on a d'ailleurs fait dans le cadre de cet atelier lettrine. C'est bien de travailler à l'encre de Chine, c'est mieux de travailler à la limite avec le brun noir, parce qu'on va avoir une encre qui ressemble beaucoup plus à celle que nous avons sur nos actes, mais c'est encore mieux en fait de fabriquer soi-même son encre. Donc là, c'est une expérience que nous avons tentée, mais qui nous a demandé en fait de nous délocaliser, parce que bien entendu, on n'a pas de salle de chimie aux Archives nationales. En fait, on est parti d'une recette médiévale de fabrication d'encre ferrogallique. Donc, et on l'a expérimenté. Donc, vous voyez sur la première image, hein, les noix de galle que l'on a fait donc macérer. Donc, c'était ce mélange va ensuite être filtré. Et puis ensuite, ce mélange filtré, je suis déjà passé au registre inférieur, nous allons en fait le chauffer. Donc, utiliser tel quel, dès que... En fait, on va s'apercevoir que ça va donner assez rapidement, avec les phénomènes d'évaporation, une pâte un petit peu épaisse que l'on pourrait déjà utiliser et que l'on a utilisé effectivement au moins jusqu'au XIIIe siècle tel quel. Ensuite, donc, on a été, nous, un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a poursuivi la recette qui nous dit qu'il faut après, effectivement, mélanger avec du vitriol. Donc, bien entendu, on n'utilise pas du vitriol avec des élèves, mais par contre, le sulfate de fer, qui en est un composant, nous permet d'avoir un bon substitut. Donc, en fait, on ajoute donc du sulfate de fer à la préparation, on fait à nouveau chauffer. Pendant ce temps-là, on prend de la gomme arabique, qui est en fait un liant que l'on va écraser. Ça se présente comme des cristaux, donc on l'écrase dans un mortier. C'est la dernière opération que vous avez avant donc de le mélanger au brunois, donc, au brunois, pardonnez-moi, à la gomme arabique qui a donc été chauffée. Et en fait, très rapidement, les tanins se révèlent et ça donne cette encre très noire. Hein. L'opération prend quelques secondes, véritablement, avant de passer de cette encre qui a un côté qui est marron à une encre véritablement noire. En revanche, elle aura tous les défauts d'une véritable encre ferro-gallique médiévale, c'est-à-dire que, bien entendu, elle va avec le temps s'oxyder. Et c'est ce qui explique également qu'on a ces colorations un peu marron sur nos manuscrits. Donc voilà, après, bien sûr, la séance est poursuivie avec une séance de calligraphie au calame avec les élèves. C'est vrai que pouvoir écrire avec l'encre que l'on a fabriquée, ça prend aussi un autre sens. Et puis, ça permet aussi de faire des beaux ponts. En fait, je parlais de travail pluridisciplinaire entre, justement, l'histoire, l'histoire des techniques, et puis là, et puis les sciences. Donc voilà pour cette, pour cet exemple. L'autre atelier qui est décliné dans le cadre de Chartes Ornées, c'est un atelier enluminure. Donc là, on pourrait effectivement prendre le parti de travailler, comme on a pu le voir, sur des reproductions de modèles, et puis simplement faire des mises en couleur. Donc là, en fait, on a pris le parti de travailler donc avec un parcheminier qui nous livre donc des peaux de chèvre ou de mouton. Ces peaux de chèvre ou de mouton, même si elles ont déjà été préalablement préparées, il faut quand même les dégraisser, donc on le fait à la ponce de soie. Donc hein, c'est l'opération que vous voyez, où les élèves en fait poncent la peau dont ils vont se servir ensuite. On va ensuite la blanchir au blanc de meudon, tout au moins pour celles de moutons qui sont un peu plus jaunes, pour avoir en fait un support plus blanc. Et puis après, en fait, on va pouvoir reproduire le modèle. Donc là, on va travailler l'appareil à partir en fait des corpus, du corpus disponible aux Archives nationales. Donc avec des propositions en fait de mise en couleur. C'est-à-dire que le modèle que vous avez, la dange sur la droite, est en fait un modèle qui est monochrome, hein, qui est fait à l'encre dans les chartes. Et là, en fait, on a simplement proposé une mise en couleur de ce modèle, mais en travaillant donc en aplat de couleurs. C'est-à-dire que le but n'est pas de faire une succession de dégradés. Il nous faut à peu près une journée avec une classe pour faire en fait toutes les étapes de l'élaboration de ce type d'image. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des temps de séchage qui sont quand même nécessaires, mais les ressources des Archives nationales sont importantes. Donc ça va nous permettre d'aller faire une incursion dans le dépôt d'archives, ça va nous permettre de faire une incursion dans l'exposition pour montrer aux élèves effectivement des originaux et pas simplement travailler sur les reproductions que nous avons dans les salles. Et puis bien sûr, l'atelier permet également de travailler et de confectionner nos propres pigments. Alors, je vais un peu trop vite parce qu'en vérité, on utilise des pigments qui sont préparés, qui sont bien entendu non toxiques, parce que vous savez que par exemple, je suis persuadée qu'on dirait aux élèves on va travailler avec de l'or piment, du sang dragon, rien que l'évocation de ces termes, il serait très très volontaire, mais l'or piment c'est extrêmement toxique, donc on va bien sûr travailler avec des pigments qui sont accessibles pour eux. En revanche, on va leur faire préparer effectivement leurs couleurs. Alors pour l'instant, on travaille avec simplement de la gomme arabique, mais on peut très très bien imaginer travailler à partir de pigments végétaux. Par exemple, il est relativement facile de créer des bleus à partir d'iris, et puis de créer nous-mêmes effectivement aussi nos liants en mélangeant gomme arabique, blanc d'œuf, miel. Je veux dire, les recettes existent, il suffit après simplement de les mettre en place. Ce sera l'étape ultérieure pour laquelle on va travailler. Et bien sûr, également, on procède à la pose d'or. Là aussi, l'image, je triche un peu, puisque je vous déconseille de travailler avec 30 élèves. Bon, systématiquement, ils sont divisés en deux. Hein. Donc, ça fait deux groupes de 15, mais même deux groupes de 15 à la feuille d'or. Le premier qui est éternu, la feuille d'or, elle a disparu. Donc, on travaille effectivement avec de l'or en poudre, qui se travaille lui aussi avec un liant. Et là, il y a quand même une valeur symbolique assez importante, hein, travailler avec de l'or. Et c'est là où on s'aperçoit aussi qu'on ne travaille pas simplement avec des couleurs. On s'en est aperçu quand on travaillait en héraldique, quand les enfants, en fait, choisissent les couleurs de leur blason. Bon, ils prennent pas noir, rouge ou bleu, ils prennent sable, gueule, azur, et tout de suite ça a une autre portée également. Et là c'est pareil, travailler en fait sur le nom de ces pigments, même si certains on ne va pas les utiliser, hein, la malachite, la pilazuli, on va effectivement utiliser d'autres pigments moins onéreux. Il n'empêche que c'est également une façon aussi de les faire entrer dans la séance. De même, ils adorent effectivement l'évocation de la dangerosité de certains de ces produits. Mais bon, ça nous est, il nous est effectivement pas possible de les utiliser. Voilà, donc en fait, je croyais avoir interposé une autre image qui a dû disparaître dans ma dernière version, simplement justement pour vous montrer les multiples facettes en fait de ces conjugaisons d'ateliers. Hein, on va bien entendu essayer au maximum en fait de croiser aussi les champs disciplinaires. Et c'est vrai qu'on a des ateliers aujourd'hui qui sont fréquentés non seulement par le professeur d'histoire, et ça on avait l'habitude, mais de plus en plus par le professeur d'art plastique, le professeur de lettres, le professeur de sciences physiques. Et ça arrange bien les collègues d'histoire, de lettres et d'art plastique, puisque vous savez les difficultés que l'on a effectivement pour libérer des classes quand le propos en fait devient pluridisciplinaire. En fait, ça permet également de favoriser et de faciliter en fait ces sorties hors milieu scolaire. Voilà, je vous remercie.